Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, il veut redonner confiance à l'école, la rendre plus efficace. La réforme du lycée et du bac, voulue par Jean-Michel Blanquer, revue et corrigée ce midi par un professeur au Collège de France, spécialiste de Montaigne, Antoine Compagnon est notre invité. Lui qui estime qu'à l'heure actuelle, le baccalauréat n'est plus un critère utile. La réforme est indispensable, mais celle-ci va-t-elle dans le bon sens? On en parle ensemble après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, Mohamed Bourouissa, l'indomptable artiste peintre, photographe et vidéaste, il présente actuellement son projet Urban Riders, des cavaliers urbains au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 22 avril. L'aventure américaine d'un plasticien à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Mohamed Bourouissa.
Bonjour.
Si je vous dis dessine-moi un cheval, vous n'aurez pas grand mal aujourd'hui?
Ouais, ça va, ça va.
Vous préférez les moutons?
je sais pas, mais j'aime bien les chevaux en tout cas.
Urban Riders, cette exposition actuellement au MAM, au Musée d'Art Moderne de Paris, est-ce qu'on peut dire que c'est une chevauchée artistique?
En tout cas, c'est une sacrée expérience, ça c'est sûr. Je dirais que ce projet, c'est un projet qui date d'assez longtemps, que j'ai commencé à initier en 2013. Donc là, on est en 2018, il est présenté là, mais il était présenté dans plusieurs expos. Et c'est surtout un projet où moi je suis resté assez longtemps à Philadelphie. Voilà, donc oui, c'est une sorte de chevauchée, au moins une expérience assez dense.
Ceci ne nous dit pas comment vous vous y êtes attelé. Vous avez vu, j'ai revisé tout mon vocabulaire équestrin.
Ouais, je vois ça. Alors, si vous voulez que je revienne à la genèse de l'histoire,
oui.
Donc c'est un projet que j'ai initié en 2013 en voyant le travail de Marta Camario. Et c'est un livre qui s'appelle Fletcher Street, dont j'invite tous les gens à aller regarder son travail, parce que c'est un très très beau livre et qui m'a profondément bouleversé, qui m'a donné envie, en tout cas, d'aller là-bas et de faire un projet. Et mon idée initiale, c'était de faire une sorte de western contemporain dans la ville de Philadelphie, parce qu'il s'agit d'Afro-Américains qui ont des chevaux dans un quartier nord-ouest de Philadelphie. Et qui ont des écuries et qui permettent aussi à des jeunes de pouvoir les chevaucher. Donc certains propriétaires qui ont des chevaux permettent à certains jeunes de pouvoir les chevaucher, donc de faire des exercices des chevaux. En tout cas, voilà, il y a une grande pratique et une grande tradition des chevaux dans ce quartier noir de Philadelphie. Et puis voilà, j'étais intéressé par leur histoire et donc je suis parti là-bas. Et en partant la première fois à Philadelphie, je me suis vite rendu compte, si vous voulez, que il y avait énormément de gens qui venaient les photographier, les filmer. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pouvais vraiment faire là-bas? Et c'est là où qu'est née l'idée de Horse Day, donc de créer une sorte de tuning de cheval, donc s'inspirant de l'idée des voitures, de créer une sorte de journée du cheval en invitant des artistes et des riders à travailler ensemble et à créer des costumes pour cette journée.
C'est-à-dire que c'était devenu un lieu mythique, presque un lieu, un objet de curiosité depuis que cet endroit, Fletcher Street, avait été immortalisé par Marta Camario, comme vous veniez de l'évoquer, une photographe originaire du Texas qui vit aujourd'hui à New York. Elle les a suivis, ses cavaliers et ses chevaux pendant 5 ans. Quand vous arrivez, du coup, il a fallu quand même recommencer tout à zéro pour vous réapproprier cette situation, pour trouver votre place, pour développer votre regard. Il y avait l'envie déjà pour vous de prendre de la distance avec la démarche documentaire de cette photographe américaine notamment, et c'est pour ça, d'en passer par la mise en scène, de bâtir et de construire ce projet de journée spéciale.
Bah, disons que ça, c'est une pratique que j'ai depuis longtemps, depuis ma première série de photographies qui s'appelait Périphérie ou Périphérique, enfin je lui ai donné deux noms. Et donc en fait, j'ai toujours travaillé à la mise en scène pour mettre à la fois à distance ce qu'on était en train de regarder et questionner ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est quelque chose que je pratique déjà dans des anciens travaux que j'ai fait. Effectivement, en allant là-bas, il s'agissait pas de refaire ce que Martha avait fait, mais d'arriver à construire un projet singulier avec une démarche, disons, plus plasticienne et plus artistique que documentaire ou simplement de documenter le quartier. Et effectivement, en faisant ce projet, il s'agissait pas de faire un projet ultime sur les riders de Fletcher Fletcher 6, mais il s'agissait de faire un projet avec les riders et de construire un projet tout autour du quartier. Donc une sorte de fête autour de ça qui était plutôt un apport que simplement une sorte de captation.
Cette idée du horse tuning, ça relève quand même aussi directement de la performance.
Bien sûr, bien sûr. Et il s'agissait de l'événement. Donc tout a été construit autour. Le film qui a été fait, vraiment, c'est un film expérimental qui questionne aussi l'image que nous on se fait, peut-être qui a été vraiment posée comme ça avec Hollywood, avec les westerns, en représentant John Wayne, qui était un des personnages un peu mythiques du cinéma américain et du western hollywoodien. Et donc une des premières scènes, par exemple, du film que j'ai fait, qui est un diptyque vidéo, questionne cette représentation. Je passe par la mise en scène pour questionner pas mal de choses. Effectivement, la représentation du cow-boy noir aux États-Unis, mais par ça aussi ma propre histoire en France, je pense, le fait d'être originaire d'Algérie.
Vous galopez en fait, vous dites tout avant moi, vous avez une longueur d'avance à chaque fois, vous êtes trop fort.
Je cours.
Mohamed Bourouissa, exposé une première fois au Studio Museum d'Harlem, puis à Amsterdam, puis à Munich et puis bien sûr à Philadelphie. Cette exposition Urban Riders a fait son entrée donc fin janvier au MAM, au Musée d'Art Moderne à Paris. Elle rassemble dessins, croquis, storyboards et photos, et en bout de route le film du Horse Day que vous avez concocté en deux volets, un diptyque. Tout le processus artistique tend vers ce jour, vous l'avez évoqué, vers la réalisation de ce film qui le raconte, tendre vers un événement comme celui-ci qui a eu lieu le 13 juillet 2014, cette parade de chevaux costumés, customisés comme des bagnoles, se fixer un but. Pourquoi faire ? Pour eux, ça a été aussi une aventure collective. Pour vous, c'était d'abord une utopie ?
Je pense que ouais, il y avait un profond désir de produire un espace autre que celui dans lequel ils pouvaient être aussi. Pas dire que le mien ou le leur était meilleur ou pas, j'essaie juste de produire un espace commun, un espace des possibles. Bon voilà, donc cet espace-là, c'était l'espace festif, c'était l'espace de l'imaginaire, de certaines formes de rêverie aussi. Par exemple, je pense à cet objet qui est dans l'espace d'exposition, qui est une sorte de licorne, qui se retrouve aussi dans le film. Donc pour moi, l'imaginaire était hyper important dans une histoire qui, effectivement, le quartier n'est pas un quartier simple, parce que Philadelphie, c'est une ville aussi qui est quand même assez ségrégée. Effectivement, l'histoire des États-Unis aussi, c'est ça. Enfin, Nord-Ouest Philadelphie, c'est vraiment que des communautés noires qui y vit. Et puis après, tu vas un peu plus dans d'autres quartiers, c'est plus les blancs et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un peu des choses qui me paraissaient assez dures et que j'avais envie un peu de produire des sortes de en tout cas d'injecter de l'imaginaire là-dedans. Pour moi, c'était ça qui était important. Mais je reste quand même, je pense, extérieur aussi à des réalités et un contexte que je connais pas ou j'appréhende de ma manière, en tout cas.
Même si vous avez joué la carte de l'immersion, comme on dit, pendant 8 mois, vous êtes resté là-bas. Un projet inscrit au cœur de la communauté, d'une communauté, un ranch dans la ville, ces écuries Fletcher Street, dans ce quartier défavorisé de Philadelphie. On sent à la fois l'importance du territoire, mais aussi toute la dimension humaine. C'est une seconde vie pour ces jeunes hommes, ce qui se passe dans ce ranch, mais aussi pour les chevaux destinés à l'abattoir, recueillis dans ce centre équestre. Écoutons le président de Fletcher Street, Ellis Ferrell.
Mon nom est Ellis Ferrell Jr. Je suis le président du club hippique de la rue Fletcher. Ici, ça a toujours été pour les enfants. Avant, j'achetais des chevaux que je choisissais avec eux lors de ventes aux enchères. S'ils en voyaient un qui leur plaisait, ils venaient me chercher. J'étais chauffeur de camion, j'avais de l'argent à l'époque. Donc, ils le voyaient, ils le voulaient, et je l'achetais. On va à des ventes aux enchères où les équarisseurs les veulent pour l'abattoir. Nous, on les achète et ça leur sauve la vie. Ils n'ont plus à travailler aussi dur que lorsqu'ils étaient sur une piste. Et j'ai fini par avoir 23 chevaux. À Philadelphie, il n'y a rien à faire pour les enfants qui vivent dans le ghetto. Rien d'autre que de dealer de la drogue. C'est ce qu'on essaye de combattre, les sortir de la rue et leur donner quelque chose de positif à faire. Ils viennent et on essaye de leur apprendre ce qu'on sait, leur montrer la bonne façon de faire. C'est comme ça qu'on l'appelle, la bonne façon de faire. Pour leur éviter les ennuis. On ne veut pas qu'ils attendent, parce que quand ils attendent, c'est là où ils peuvent avoir des ennuis et rentrer dans l'engrenage. On essaye juste de leur éviter ça.
Quel lien tissent ces hommes avec les chevaux ?
Alors, le lien... En tout cas, je voulais juste vous remercier déjà d'avoir fait passer la voix de Élise. Parce que c'est vrai, des fois, quand on me pose des questions, on me demande de parler à la place des gens. Et je trouve ça très bien que vous ayez passé, parce que ça me permet de laisser la place aux autres. Tandis que, voilà, je parle aussi de ma réalité. Et c'est bien que puissent le dire avec leurs mots. Je trouve ça très bien. Donc,
et
merci
lui, c'est
beaucoup.
Le boss des lieux, en gros.
En fait, l'écurie l'association n'existe plus vraiment. Mais Élise a été vraiment un vrai soutien pour la communauté et pour la vie des chevaux. Ils ont acheté énormément de chevaux et beaucoup de gamins du quartier qui sont aussi des enfants ou ils ont des filiations, des fois c'est le cousin, viennent pour nettoyer les chevaux ou pour s'occuper des écuries et monter les chevaux, quoi. Donc en tout cas, ouais, c'est Élise qui était un personnage très important de Fletcher Street.
Alors, on imagine ce que ces hommes représentent dans la vie de ces chevaux, qui étaient normalement destinés à l'abattoir. C'est-à-dire, ils étaient en fin de vie, on allait se débarrasser d'eux, terminé. Là, ils retrouvent une seconde vie. Et que représentent du coup les chevaux pour ces hommes ?
Ça, en tout cas, voilà. Donc, c'est très bien que vous ayez passé sa voix. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est une question qu'il faudrait leur poser à eux directement. Mais en tout cas,
vous avez dû le ressentir en
mais j'ai dû, oui, je vais essayer d'en parler, mais de mon point de vue, pour le coup. Et c'est vrai que c'est, mais moi, ce que je me dis, c'est que, par exemple, une des scènes du film, on voit à un moment donné, App, qui était le MC qui présentait à chaque fois les riders, à un moment donné, il disait, voilà, Pee-wee ride Rosie. Et Rosie, c'est le nom du cheval. Et ils ont, en fait, tous, certains chevaux qui sont là-bas depuis très longtemps. Et par exemple, Pee-wee, qui est un des propriétaires de Rosie, les chevaux ont leur propre caractère, ont leur personnalité. Voilà, ils ont vraiment une sorte de filiation très forte. Moi, ça me fait penser à des sortes de centaures, à la limite. On est proche de ça, cette vision un peu du centaure qui est mi-homme, mi-cheval. Enfin, du centaure, c'est bien ça. Je dis une petite bêtise, c'est ça, quoi. C'est un centaure, c'est ça. C'est pas une connerie. Ok, d'accord. J'avais l'impression d'avoir dit une connerie. Mais en tout cas, voilà, cette vision-là, je pense qu'elle est très, très importante et il crée vraiment des liens très forts avec certains chevaux. Après, il y a plusieurs niveaux là-bas parce que les gens ont l'impression qu'il y a qu'une chose qui s'y passe. Il y a des gens qui sont propriétaires de chevaux, qui ont des chevaux pour des courses, courent des courses. D'autres aussi qui sont des chevaux qui viennent des abattoirs. Je pense qu'il y a une grande diversité de riders et de propriétaires et de types de chevaux. En tout cas, voilà. Et que c'est pas homogène dans toute, voilà.
Et vous ?
Et moi là-dedans, j'ai une anecdote moi qui m'a fait vraiment plaisir. Au début, c'était très dur de faire partie de la communauté. C'était évidemment très compliqué de pouvoir discuter. Je parlais pas super bien anglais. Les rapports étaient pas si simples. Ils étaient aussi conflictuels parfois. Après, le jour du concours, tout le monde a compris là où je voulais tendre. Et ça a profondément marché parce qu'il y a aussi pas mal de blancs qui sont venus dans le quartier. D'habitude, il y a que des noirs et donc ça a changé aussi les rapports. Et donc, il y avait quelque chose de fort. Et même des gens du quartier étaient venus regarder le concours. Et donc, en fait, moi, j'ai juste une anecdote qu'il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait mon exposition à la Barnes Foundation. À un moment donné, moi, je vais là-bas. Et il y a Pee-wee, qui était un des riders, me dit, Mohamed, viens, il y a des gens qui viennent faire une photo de mode. Viens, prends un cheval et tout. Donc, je prends le cheval de Donnie. Et donc, il y a une équipe de mode pour un magazine qui vient et qui vient faire des photos là-bas. Et donc tout d'un coup, je prends le cheval, on est tous ensemble et je deviens un des personnages derrière l'image. Donc je deviens un des riders qui est derrière l'image. Donc en fait, j'ai gagné, je crois que j'avais gagné $40. Mais c'était juste le geste de m'intégrer dans une photographie, dans leur propre représentation. Donc là, ouais, c'est un moment assez mouvant et assez drôle, en fait, d'une inversion, du jeu de l'image, en tout cas.
Et vous aviez gagné vos galons, vous faisiez un peu partie de la communauté.
Ouais, il y a un truc un peu comme ça, ouais.
Pourquoi il y a eu des conflits?
Parce que c'est pas simple, parce que quand on vient dans un projet, qu'on dit, je vais faire un projet artistique, je veux intégrer des artistes et des riders, un cheval, c'est un animal, il a sa propre personnalité. Il faut savoir qu'un cheval, il est très effrayé par des mouvements, et donc mettre un costume sur un cheval, ça peut paraître dangereux. Certains n'étaient pas trop d'accord, m'expliquaient que ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc voilà, il s'agissait de trouver des sortes de compromis, des compromis entre ce qu'ils avaient en tête ou ce qu'ils imaginaient, et puis moi, ce que j'imaginais aussi.
Il y a une grande différence entre Marta Camarillo, qui a photographié les lieux, qui a suivi ses cavaliers, ses hommes, ses chevaux pendant 5 ans, et vous, c'est que vous êtes un homme. Ouais. Est-ce que ça a beaucoup changé le rapport que vous avez pu avoir avec eux? Est-ce que vous avez réussi à tisser une forme de camaraderie, de fraternité, qui vous a placé non pas en maître d'œuvre de ce projet, mais aussi en acteur, en pièce centrale de ce lieu?
Je pense pas, je pense que c'était plus hard, c'était plus dur d'être un homme venant là-bas, voulant faire un projet et voulant investir. Parce que les rapports de force sont pas les mêmes qu'étant une femme. Je pense que, c'est très masculin, ça peut être très, enfin, je pense que ça peut être très dur vis-à-vis, même assez misogyne. Et donc c'était effectivement les rapports de force entre homme-homme, ça peut être très compliqué aussi. Après, j'ai rencontré plein de types de personnes, c'est-à-dire qu'il y a une communauté et après il y a des individus. Et j'ai tissé des liens très forts avec des gens de la commune, de certaines comme App, Denis et tout. Et puis d'autres, ça a été plus conflictuel. Je crois que ça dépend des personnes, mais c'est, en tout cas, par exemple, il y a une autre histoire, c'est qu'à un moment donné, on devait faire un prix à 1 800 $, et en fait on a splitté le prix sur tout le monde parce que ça facilitait la cohésion et que ça produisait pas des tensions. Et ça a été une réflexion qui est venue de gens de Fletcher Street. Donc on a décidé de faire autrement le prix.
Casser les stéréotypes, Urban Riders, l'envie de déconstruire ces clichés véhiculés par la culture américaine, par celle des westerns, fini le cowboy blanc à la John Wayne qui a dominer nos soirées et nos nuits, La prisonnière du désert, Rio Bravo de Howard Hawks, La chevauchée fantastique, d'où votre chevauchée artistique, celle de John Ford, toujours avec John Wade, ou encore Fort Apache avec Henry Fonda, hein, colonel de cavalerie, où on retrouve tous ces grands héros qui ont marqué la culture américaine. Et si on s'écoutait un petit morceau de Rio Bravo.
Hello, this is John Wayne. Two of my co-stars in Rio Bravo, Dean Martin and Ricky Nelson, sing a mighty pretty tune. Thought you'd like to hear them.
Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody,
riding to Amarillo,
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow to be roping, no more stray. Will I see
round the bend,
she'll be waiting
for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony.
Mais vous êtes quand même, à votre manière, Mohamed Bourouissa, aussi un lonesome cowboy. Vous travaillez seul?
Non, je travaille avec plein de gens. Je réfléchis avec plein de gens. je travaille pas seul, je suis peut-être solitaire. Ça, c'est, on peut dire que je suis quelqu'un de solitaire, mais je suis très entouré. C'est quoi votre question ?
C'était ça.
Est-ce que je suis seul ?
Je pense que
c'est des obsessions. Je suis peut-être très obsessif, très. Ouais, c'est un truc un peu obsessionnel quand j'ai une idée derrière la tête. C'est vrai que j'aime aller au bout de ce que j'ai dans la tête et c'est souvent des intuitions. C'est pas obligatoirement des choses complètement réfléchies. Je pense que j'étais complètement fou d'aller dans une ville à Philadelphie, nord-ouest de Philly, puis de pas trop parler l'anglais et puis de partir là-bas. C'était un peu une aventure, mais je pense que ça a été ça m'a beaucoup nourri aussi personnellement, aussi par rapport à une histoire des États-Unis, à l'histoire des Afro américain aussi, et puis ça m'a permis aussi de réfléchir sur ma propre histoire, l'histoire de l'Algérie puis de la France, de cette histoire qu'on a du mal à dénouer, et puis ces histoires d'identité, de culture, me questionnent en fait de plus en plus et que je suis en train de développer dans d'autres projets.
D'identité et de culture, que la culture véhicule aussi. Mm-hmm. La culture avec un grand C, plutôt les grandes institutions culturelles. C'est ce que nous disait l'an passé, on recevait le romancier Viet Thanh Nguyen, Pulitzer 2016, pour son roman Le Sympathisant. Il est mi-vietnamien, mi-américain. Il a grandi aux États-Unis, réfugié là-bas avec sa famille, une famille de boat people. Il revenait sur la guerre du Vietnam sans choisir son camp, en présentant les deux regards pour casser aussi, c'est ce qu'il disait, les représentations assez figées, celles véhiculées par le cinéma américain. Alors là, on est plutôt du côté de Voyage au bout de l'enfer ou de Apocalypse Now de Coppola. Et il disait Hollywood, il qualifiait le cinéma américain Hollywood de rampe de lancement du missile balistique international de l'américanisation.
Ah bah là, c'est clair, le western, ça a été.
C'est pareil, vous avez grandi, biberonné à ces westerns qu'on évoquait.
Je pense que beaucoup de choses, mais le truc, c'est qu'aussi, on a eu de la chance, c'est qu'on a eu une. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu une sorte d'invasion aussi des dessins animés, des mangas japonais. Ça, c'était quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on avait aussi le contrepoint avec le Club Dorothée, donc ça, c'était assez fou. Bah, ça, franchement, pour le coup, si on peut dire qu'il y a du politique dans le Club Dorothée, c'est qu'elle nous a permis d'avoir un autre regard avec une autre culture. Mais effectivement, je pense que le cinéma hollywoodien et plus particulièrement le western, et on peut voir ça à partir des années 60, c'est qu'il y a eu une sorte d'explosion du cinéma, une représentation de la puissance américaine par le cinéma, par cette représentation du cow-boy. Et ça a homogénéisé aussi une histoire américaine, dans le sens où les costumes et la manière de s'habiller venaient des Mexicains, qui eux étaient les tout premiers cow-boys. Et aussi, faut savoir que les Afro-Américains ont été nommés, enfin on les a appelés les Buffalo pendant la guerre de sécession, et c'est pour gagner leur liberté, en fait, ils partaient en guerre et devenaient des cavaliers aussi. Donc il y a une histoire, il y a une tradition du cow-boy dans ces variétés diverses aux États-Unis qui a été complètement oubliée, disons, du cinéma hollywoodien. Mais il y a quelques films quand même, quelques westerns qui sont sortis dans les années 60, mais très peu, et qui sont très marginales par rapport au cinéma.
Et eux, comment se perçoivent-ils ? Extrait de votre film, Mohamed Bourouissa, où l'un d'eux dit « Je suis un cavalier, pas un cow-boy ».
Yeah, you're a horseman.
Yeah,
which is different cowboy. Than being a cowboy.
That's different.
Yeah. Is there any kind of colors or patterns that you like?
Let's give him a round of applause, y'all.
That you're drawn to?
Neat colors. I'm trying to figure out what color will match with the horse. Then you got to know the saddle.
Yeah, you match with the horse. Yeah. That's something.
Yeah, and then the saddle got to match with.
What does your saddle look like?
I got a couple of them. I got a black one, and I got a brown one with silver. Yeah, and I got a silver chest band.
Y'all gotta watch this white horse with all these CDs on.
Est-ce que cette expérience pour eux dans le ranch font qu'ils se vivent 100% américains? C'est-à-dire, est-ce que le fait de revenir à ces fondamentaux de l'Amérique, tels que la culture les véhicule, tels qu'ils ont grandi aussi avec, font qu'ils se sentent, ils ont le sentiment de se réapproprier leur identité, leur histoire américaine, leur part américaine?
Ça, c'est, comme je vous dis, pour moi, ça, c'est des questions qu'il faudrait pouvoir leur poser directement. Mais en tout cas, mon avis, je pense qu'ils sont profondément américains, en tout cas. Avec des ambiguïtés, évidemment, avec des fêlures, avec des blessures. Mais oui, je pense qu'ils se sentent américains. Mais avec la complexité que c'est d'être américain, parce que c'est pas juste, genre, je suis américain et puis je nie complètement ce que je suis et de mon histoire. C'est un peu, pour moi, c'est un peu... Alors, ça, on fait le parallèle directement, je pense. Je pense plutôt à ce qu'on nous pour vivre en France, tu vois. Bah, évidemment qu'il y a un peu de ça, mais je crois qu'ils se sentent américains.
Quels auteurs ou artistes, vous, ont nourri votre imaginaire, votre conscience artistique et politique?
Y en a pas mal. Après, ça, c'est compliqué de dire qui. Mais en ce moment, par exemple, j'ai fait dernièrement, j'étais invité à LA pour faire une exposition et pour créer une sorte de petite vidéo autour, une sorte de publicité pour la télé. Et on m'a dit, bah, tiens, tu veux pas faire quelque chose là-dessus? Et donc, je me suis intéressé au discours de Fanon. Et je me suis intéressé aux différentes figures et aux relations qu'il pouvait y avoir entre les États-Unis, la France et l'Algérie. Et donc, c'est ça qui m'a aussi intéressé. Donc, Fanon fait partie des gens que je lis, que j'essaie d'un peu mieux comprendre. Et puis, la vidéo, en fait, c'est je mets la voix de Fanon sur la bouche de Elgius Clever, qui, lui, était un Black Panther, ce qui était parti en Algérie pour un exil. Et si Elgius Clever est parti en Algérie, c'est qu'en fait, une des bases idéologiques des Black Panthers a été les damnés de la Terre, qui a beaucoup servi à la lutte des Black Panthers. Donc voilà, c'est des gens aussi, moi, qui me touchent. Après, des artistes, il y en a beaucoup aussi.
Ça fait penser au film Black Panthers, hein, ouais. Qui commence à cartonner aux États-Unis.
Et je vous invite à voir deux expos. Justement. Je pense juste à une expo qui est juste en face d'un artiste qui s'appelle Nel Beloufa, qui est un ami que j'aime beaucoup aussi. Donc, fait partie des artistes que j'aime. Je pense à Laura Eno aussi. Enfin, voilà, ce sont plutôt des proches. Je pense citer Sabrina Belouar, Gaël Chouan. Enfin, voilà, beaucoup de gens qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, je suis solitaire, mais je suis beaucoup entouré par des gens et un univers. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous constitue aussi.
Mohamed voilà. Bourouissa, comme dans Temps mort ou dans Périphérie, vos précédentes séries, où vous aviez joué la carte de la reconstitution, les clichés de la banlieue, traversés de symboles inspirés des maîtres de la peinture, de Géricault à Delacroix, de Poussin à David. Vous n'êtes pas passé par une formation classique, mais on a l'impression que tout ce que vous avez vu, parce que vous êtes aussi un regardeur, vous avez gardé l'envie de reconfigurer le réel, le rendre beau. Mais c'est quoi le beau en art? Et on terminera sur cette petite question.
Mais c'est marrant parce que le beau, ça devient de plus en plus vulgaire de dire ça. Cette notion-là, c'est une notion qui est un peu... genre, c'est pas bien, il faut que ça soit très intellectualisé, le travail et tout. Je pense qu'un travail intellectuel peut tendre vers la notion du beau. Et c'est vrai que quand j'avais fait Périphérie, la session, c'est genre... c'était un travail esthétique qui... t'obligeait à regarder l'image, quoi. Et donc, voilà, il y avait une question de la sublimation aussi, pour moi, qui était importante dans le travail de Périphérie. Et voilà, je pense que c'est aussi aimer ces sujets aussi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, je crois que c'est ça. Et pour moi, le beau, il peut pas y avoir aussi une dimension très subversive là-dedans.
Voilà. Mohamed Bourouissa, l'indomptable, on a bien choisi le titre de cette émission. Les dessins présents dans cette exposition Urban Horses sont aussi à voir dans ce catalogue, Urban Riders, pardon, sont aussi à voir dans ce catalogue Horse Day. Le musée d'art moderne de la ville de Paris les présente actuellement. Et l'exposition, elle, est donc visible au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 22 avril. Merci mille fois.
De rien, merci à vous.
Merci beaucoup.